Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La semaine de rentrée est finie ou presque dans quelques heures. La quille, le week-end, pour les plus chanceux et pour ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle, qu'à cela ne tienne, vous aussi vous avez le droit d'aller au cinéma. Une rentrée en clair-obscur pour l'émission Le Grand Écran, le noir de la guerre, le noir des impasses amoureuses, le noir de l'horizon aussi parfois, mais rassurez-vous, au bout du tunnel, au milieu du gué et même à proximité de la lumière, toujours plus forte que la mort. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, aujourd'hui, il n'y en a qu'un, mais lequel ? Plouf plouf, Louis-Marie Soler, vous êtes producteur de l'émission Cinéma de Radio Présence le mercredi soir à 19h, 19-20h, n'oubliez pas l'ouvreuse, et donc co-animateur, pour rappel, du ciné-club Ciné-Parole au cinéma L'ABC. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et donc nous a fait défaut Paul Dima pour cette émission, il s'en excuse bien auprès des auditeurs, mais rendez-vous est donné tout au long de l'année, hein, on a même fait la programmation. Alors au programme, allez, c'est vous qui allez nous annoncer le programme, Louis-Marie, puisque vous êtes l'ouvreuse de cette émission.
Avec plaisir. Nous commencerons par un
film à l'affiche.
Le film à l'affiche, très beau film signé Zabou Breitman et Eléa Gobé-Mévelec, Les Hirondelles de Kaboul. Et puis après quoi ?
Chef-d'œuvre humaniste.
Exactement, chef-d'œuvre humaniste. Pour le suivant, l'autre chef-d'œuvre.
Manu chez Maud,
le film d'Éric Rohmer. Et puis, pour finir, on conclura avec Albert Hughes et Allen Hughes, les deux réalisateurs du film qui s'intitule Le Livre des Lits.
Voilà, pour le chef-d'œuvre spirituel du mois. Alors, on rappelle, pour ceux qui, par hasard, tomberaient sur cette émission pour la première fois, et puis pour les autres qui ne se précipitent pas ventre à terre à votre ciné-club, et ils ont tort, une fois par mois au cinéma L'ABC, cinéma d'arrêt d'essai courageux de la Ville Rose, vous donnez rendez-vous aux auditeurs à la fin donc d'une séance, vous posez et vous parlez des films pour essayer de voir le chemin qu'ils ont fait dans le cœur et dans la tête des spectateurs. On va commencer donc avec le premier film, Les Hirondelles de Kaboul, tiré d'un roman, on en parlera. On commence comme toujours par écouter la bande-annonce.
My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue.
Ça ira, baisse la musique en tout temps du dehors. Tu vas nous aider.
Désolée, Nastaran. Merci.
J'aimerais te renseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Mais tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète. Où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la fraye. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi.
Mais c'est merveilleux.
Imagine, éduquer des enfants à être libres.
Oh là là, j'étouffe là-dessous.
Attends, je vais t'aider.
Oh, vous riez pas, c'est interdit, stop.
Tu vas aller à la mosquée, écouter le prêche, dis-moi la bachir. Ça te remettra les idées en place.
Je dois amener mon épouse chez ses parents.
Qu'est-ce que tu as ?
On m'a amené une nouvelle prisonnière.
Et alors ?
Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son châtelet devant moi.
Tu lui as parlé ?
Non.
Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée ?
C'est un couple sans problème, gentil.
C'est fichu. Les talibans nous détruisent.
Pourquoi tu t'intéresses autant à la prisonnière ?
Je te préviens, la cérémonie est très attendue. C'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on te dit.
Et te tueront, Sonaira.
Ne sommes-nous pas tous déjà morts depuis longtemps ?
Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul ?
Voilà, il faut le dire, hein, dès l'introduction, je ne sais pas si ça aurait pu être aussi dans la catégorie chef-d'œuvre de notre émission d'ici quelques temps, mais c'est un très beau film, hein, très très beau film. Je vais commencer comme d'habitude à citer un peu la presse qui pour le coup est unanime, Ouest France, un puissant brûlot contre l'obscurantisme, pardon. La Croix, surprenant le spectateur, les deux réalisatrices livrent une œuvre forte sur le comportement des hommes plus que sur celui des femmes, laissant entendre ailleurs dans la critique que c'était un très beau film. Télérama, dans la capitale afghane, aux mains des talibans, les destins de deux couples s'entrechoquent, la douceur du dessin sublime cet hymne à la résistance. Très beau film, ça a été une surprise pour vous, Louis-Marie. J'imagine que vous en voyez beaucoup des films, mais peut-être pas toujours des comme ça, non ?
Non, effectivement, celui-ci est très beau. Et le choix de Zabou Breitman, qu'on n'attendait pas là, qu'on connaît comme actrice d'abord, puis comme réalisatrice.
Elle a plusieurs Molières. Hein,
oui. Et puis de choisir d'adapter ce fameux livre de Yasmina Khadra, donc Les Hirondelles de Kaboul, et d'en faire un film d'animation. Et finalement, c'est, je trouve, un choix astucieux, adroit, puisque le livre est difficile, l'histoire est très dure, et ces belles aquarelles, ce genre de dessin qu'on doit à Eléa Gobé-Mébélec, qui co-réalise toute la partie animation et dessin, et c'est adouci ce thème qui est redoutablement terrible, quoi. C'est abominable ce que les Afghans et les habitants de Kaboul vivent sous les talibans.
Alors en effet, hein, Kaboul, tout le monde aura compris, c'est donc en Afghanistan, c'est cette période sous le régime taliban. On raconte un tout petit peu l'histoire, donc il y a deux couples en fait et deux histoires qui s'entrecroisent, un certain Atik et sa femme Moussarat. Atik est gardien de prison, il a fait la guerre contre les Russes comme Moudjahidine. Aujourd'hui il est gardien de la prison de Kaboul, qui comme la plupart des bâtiments s'écroule presque, et les femmes qui doivent être exécutées défile dans sa prison. Sa femme Moussarat est malade et leur couple ne va pas bien. Et puis à l'autre bout, ou presque, donc il y a Moshen et sa femme Zuneira. Tous les deux, dans le film en tout cas, ils sont enseignants,
ils étaient étudiants.
Ils s'aiment
beaucoup.
Ils supportent pas ce régime de fou. Et elle, voilà, est pleine de, on va dire, de vie, d'impertinence, mais le drame va se nouer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Louis-Marie, peut-être sans dévoiler la fin, à propos après de ce qui se passe entre ces deux couples ?
Il y a effectivement, vous l'avez bien souligné, enfin vous l'avez dit, Atik et Moussarat, le couple plus ancien, ce Moudjahidine qui a fait la guerre contre les Soviétiques et qu'on a mis là parce qu'il est blessé. Hein, il traîne la patte.
Un dur au mal, hein, quand même.
Effectivement, hein, il souffre, mais il peut plus combattre. Il a une jambe, un genou qui fonctionne plus convenablement, et sa femme est terriblement malade. Elle a un cancer, donc elle est condamnée. On sait d'ores et déjà qu'elle est condamnée. S'il y a un moment, donc, ce qui se passe dans l'histoire où tout va basculer pour ce jeune couple,
ça, il faut le dire quand même, oui.
Oui, c'est important de le dire. Ce jeune couple qui s'aime malgré tout ce qui se passe, malgré le fait qu'ils puissent plus être enseignants, malgré qu'ils puissent plus sortir comme ils veulent, ils vont plus au cinéma. D'ailleurs, une très belle scène à ce propos où on voit Kaboul à l'époque où encore le cinéma fonctionnait, où encore on
Kaboul
voyait...
qui était une magnifique ville. Hein, vous le rappelez dans votre chronique ce mercredi.
Et c'était une ville magnifique.
C'est comme Alep, c'était des villes splendides.
Où la culture. Il se passait des choses, et donc on voyait des couples habillés à l'occidental sortir du cinéma, et petit à petit, c'est là où le dessin justement souligne et montre, sans surligner justement, c'est difficile de le faire autrement que comme ça. C'est là où le film avec des acteurs aurait péché. Là, on voit s'estomper la façade, et des deux femmes et de cet homme qui sortent du cinéma deviennent deux femmes voilées avec la burqa, avec un homme, et le cinéma détruit, quoi.
Alors avant de vous raconter le cœur de l'intrigue, on va écouter un autre extrait. Comme ça, on va comprendre ce qui amène une dispute fatale.
T'es folle, t'as mis tes chaussures blanches.
Oh, ça va.
Mais tu sais bien que c'est interdit.
Mais t'inquiète, on voit à peine mes pieds. Oh là là, j'ai tellement soif, j'étouffe là-dessous.
Attends. Hey, petite. Hey. Tiens.
Hey, Tata. Tu peux aller avec Samir aujourd'hui ?
Non, mais chérie, c'est pas Tata. C'est juste son tchadri, elle me l'a prêté. Moi, je suis Zunaira, sa voisine.
Ah, d'accord.
Bon, alors, j'ai soif.
Tiens, attends, je t'aider.
Non, je te bouge pas.
Mais c'est pas ma bouche, c'est mon nez.
Concentre-toi aussi.
C'est n'importe quoi. Mets pas, Attends. Tu m'en mets pas.
Attends, non, s'il te plaît.
Laisse-moi faire.
Laisse-toi faire.
Non, laisse-moi faire.
Oh, vous riez pas, c'est interdit, stop.
Chut, tu vas aller à la mosquée, j'ai écouté le prêche, dis-moi la bachir. Ça te remettra les idées en place.
Je dois amener mon épouse chez Céline.
Toi, tu l'attends contre le mur, là. Et tu ôtes ça. C'est interdit, les chaussures blanches.
Voilà, j'aurais dû peut-être l'introduire. En fait, ils décident d'aller devant une librairie, semble-t-il, célèbre de Kaboul, ou en tout cas là où ils avaient leurs habitudes. Pardon. Et puis, elle revêt donc une burqa intégrale, de façon à pouvoir sortir dans la rue, parce que sinon, ça lui était interdit.
Celle de sa voisine, ce qui provoque le quiproquo avec la petite gamine qui vend de quoi boire.
Et puis, ils oublient un peu qu'ils sont sous un régime de fondamentalistes, et donc, ils se laissent aller. Et lui, donc, est obligé d'assister au prêche de la mosquée, et elle va rôtir au soleil, et va s'en suivre, en fait, derrière une dispute, et pendant la dispute.
Et pendant la dispute, ils se séparent. Et lui reste un moment, il est quand même mal dans sa peau, et il va assister à une lapidation. Ouais. Il va assister à une lapidation, et non seulement il va assister, mais il va y participer. Il lancera une seule pierre, mais il lancera une pierre malgré tout.
Voilà, s'ensuit un drame, ça aussi on peut peut-être le raconter quand même, non ? S'ensuit un drame, c'est-à-dire qu'en fait elle va tuer donc son mari.
Accidentellement. Une dispute.
Et elle va être donc elle va être elle-même enfermée dans la prison d'Attique pour meurtre, et là l'affaire va se nouer et se dénouer à la fois. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de la réalisatrice Zabou Breitman? Vous l'avez dit au début de l'émission, c'est une réalisatrice qui a été de nombreuses fois primée. Elle a eu des Molières pour le théâtre, et puis elle a eu aussi, j'ai vu, le César de la meilleure première œuvre pour Se souvenir des belles choses en 2003.
Oui, parce que c'est...
Quel est un peu le ton de cette réalisatrice?
C'est-à-dire qu'elle aime parler des faits de société, des relations entre les hommes et les femmes. Il y a ce souvenir de belles choses. C'est quelqu'un qui se retrouve dans une clinique psychiatrique et qui voit sa mémoire s'effacer petit à petit. Et donc soutenu par quelqu'un d'autre, et il va falloir... Le titre laisse entrevoir ce qui se passe, se souvenir de belles choses, petit à petit tout s'efface, ne garder que la substantifique moelle, si c'est possible, mais en tout cas aider pour l'être. Elle aime ses films, et c'est la première fois qu'elle s'essaye donc à ce genre de mise en scène, mais de films d'animation, mais elle a gardé son côté metteur en scène, puisque elle a réuni les acteurs qui sont remarquables. Il faut citer les quatre personnages principaux: Swan Harlow, qui joue le rôle de Mohsen, et Zita Enro, celui de Zunaïra, et puis il y a Simon Abkarian, c'est sans doute le personnage qu'on voit le plus, Atik, et Yamabas, qui joue le rôle de Moussarat, la femme malade d'Atik. Il y en a d'autres aussi.
Vous les citez parce que c'est des acteurs connus ou...
Oui, ce sont des acteurs connus, et parce qu'elle a demandé à la dessinatrice de donner leurs traits aux personnages qu'ils interprètent. C'est-à-dire, quand on voit Atik, on reconnaît le visage de Simon Abkarian. Quand on voit celui de Zunaïra, on reconnaît Zita Enro. Zita Enro, si ça vous dit quelque chose, en ce moment elle est à l'écran pour un film qui n'a rien à voir, qui s'appelle La vie scolaire. Donc vous voyez son visage en ce moment sur les affiches auprès d'un cinéma près de chez vous. Voilà, et donc elle les a réunis, elle les a fait jouer, interpréter les scènes, et à partir de leur interprétation, le dessin s'est fait après. De façon à ce que le mouvement des personnages correspond à ce qu'ils disent.
Voilà, en tout cas, c'est une manière de faire face donc à l'horreur de ce régime des mollahs à Kaboul, qui n'est pas sans rappeler un autre califat récent. On a l'impression que c'est presque aussi une forme de plongée aussi dans Daesh. Hein.
Oui.
Un film plein de poésie. Mais revenu une phrase qu'on a citée hier lors de l'émission Vivante Église sur la place du jeu pour les enfants. Le rôle des parents par rapport au jeu, c'est de tracer un territoire entre la de tracer un territoire à la réalité sans dessécher l'imaginaire. J'avais bien aimé cette phrase. Et je me dis que voilà, c'est une manière de faire entrer une réalité terrible en la rendant un tout petit peu imaginaire. Pour finir, on va écouter un deuxième extrait qui donne à entendre peut-être le dénouement de ce film qui se finit par une vraie note d'espoir.
Mohsen Rahmat, c'est toi ?
Professeur Arash Bayazid, bonjour. Je suis désolé, je vous ai fait peur, mais je viens là tous les jours, je vous ai jamais vu. Vous étiez parti pour un colloque ?
Tu rigoles, plus personne ne quitte ce pays, c'est fini. Je viens très peu ici, trop de tristesse. Mais je récupère des papiers et des livres. J'enseigne encore.
À l'école coranique ?
Oui. Entre autres.
J'aimerais t'en enseigner, mais... je ne peux pas le faire à l'école coranique. L'histoire est tronquée, menteuse. Je veux pas retourner la tête de jeunes enfants.
Chut, Mohsen ! Mais tu sais qu'il y a une autre école.
Ah bon ?
Une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la fraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Tu es payé par l'école coranique, mais tu donnes ton cœur à l'école de la vie.
Je sais pas, je... avec Zunaira, on voudrait quitter le pays.
Parle-lui.
Voilà, on va laisser tout ça en suspens. Un très beau film donc à voir. Les Hirondelles de Kaboul, donc de Zabou Breitman, c'est en ce moment à l'affiche. Ça ne sera pas l'objet d'un ciné-parole parce qu'il n'y a pas de ciné-parole ce mois-ci. Mais que ça n'empêche pas les uns les autres d'aller au cinéma.
Ça aurait pu l'être.
Ça aurait pu l'être, exactement. On va faire une première pause musicale justement avec de la musique extraite de ce film. Et puis on vous retrouve, Louis-Marie Soler, pour le chef-d'œuvre humaniste du mois, Ma nuit chez Maud de Éric Rohmer.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, pour ceux qui nous rejoignent, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission cinéma du mois. En cette rentrée, on pense déjà à prendre un peu de loisirs. et de bon temps, et on va pas s'en priver, autour du plateau. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un, Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, et donc co-animateur du Ciné-Parole, du Ciné-Club, pardon, Ciné-Parole au cinéma L'ABC, Ciné-Club mensuel auquel participent Louis-Marie Soler et Paul Dima, les deux invités chroniqueurs de cette émission. Deuxième film, donc Ma nuit chez Maud de Eric Rohmer. Film sorti en quelle année, Louis-Marie ?
C'était en 69.
Film sorti exactement en 69, je m'en souviens maintenant. Ma nuit chez Maud, voilà, très beau
1969,
film.
1969, c'est pour le dire.
Ouais, ouais. Très très beau film. Voilà, je me suis dit que vous aviez bien fait de le choisir, dans lequel certainement bien des couples, au risque de choquer peut-être, se reconnaîtront. On va écouter pareil la bande-annonce, on va dire autre temps, autre époque, hein. Là pour le coup on passe de Kaboul à la France dans les années 68, 69, 70, mais c'est pas grave, on écoute.
Je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans son comportement. Il a des moments d'absence, de rêverie, comme s'il pensait à quelqu'un. Pas à quelque chose, à quelqu'un. Il serait amoureux, ça ne m'étonnerait pas.
Ah, première nouvelle.
Elle est brune ou blonde?
Je crois qu'il les préfère blondes.
Dites, quoi, ça n'est pas compromettant.
Non, vous dis-je.
Dites. En échange, je vous raconterai ma vie.
Ça menace d'être long.
Eh bien, on fera plusieurs séances.
Je ne connais personne, je n'aime personne, un point c'est tout.
J'ai l'air mal réveillé.
Ah oui.
Pariez-vous?
Comme ça.
Vous êtes plutôt du genre gay.
Très, pas vous?
Non, pas tellement. Enfin, ça dépend avec qui je suis. Avec vous, je me sens très bien. Vous ne croyez pas à mon amitié?
Je ne connais pas.
C'est vrai, il n'y a pas 24 heures que nous sommes ensemble, et encore avec interruption. Et moi, il me semble que je vous connais depuis une éternité. Pas vous.
Mais c'est possible. Nous en avons été très vite aux confidences.
Je ne sais pas ce que j'ai depuis quelques jours, je n'arrête pas de parler. J'ai envie de m'épancher.
Pour vous marier.
Avec qui?
Voilà, c'est les bandes annonces de la fin des années 60, donc c'est pas vraiment le même rythme que les Hirondelles de Kaboul ou que presque le thriller, le film de science-fiction qu'on écoutera à la fin, donc on coupe un petit peu. Ma nuit chez Maud, j'ai pas trouvé trace donc de critique de presse, hein, voilà, c'est difficile à retrouver. Je vais m'essayer à essayer de résumer l'intrigue et puis vous compléterez, Louis-Marie, et puis vous nous parlerez évidemment d'Eric Rohmer aussi. C'est donc deux hommes qui vivent à Clermont-Ferrand, qui sont des vieux amis qui se recroisent là-bas, Vidal et Jean-Louis. Ce Vidal introduit Jean-Louis auprès d'une amie avec qui, semble-t-il, il a une relation amoureuse une relation intime. Voilà.
C'est une relation amoureuse, mais qui reste platonique.
Qui reste platonique, bref, on n'en sait pas trop. Et ce Jean-Louis va se retrouver un peu pris au piège, à passer presque contre son gré, en tout cas au début, une nuit chez Maud. Et tout ce qui va se jouer, c'est en fait le chemin que ce Jean-Louis va faire, qui mystérieusement, alors qu'il était parti presque pour une aventure d'un soir, va l'emmener au mariage. En tout cas, c'est comme ça moi que j'ai compris cette intrigue. Comment vous complétez la présentation?
Il avait pris une drôle de décision quand même, puisque il est de retour à Clermont-Ferrand après avoir été absent longtemps, puisqu'il est parti faire des études. Il revient, il est devenu ingénieur et il travaille chez Michelin. La ville de Clermont-Ferrand, l'usine de Clermont-Ferrand.
On peut se projeter en tout cas. Hein.
Oui, depuis qu'il est retourné, il a l'habitude d'aller dans la même paroisse, assister tous les dimanches à la messe. Et à cette messe, à la messe où il va tous les dimanches, il a repéré une jeune femme blonde qui lui plaît et il a décidé qu'il se mariera avec elle.
Il a décidé ou il a l'intuition que cette femme serait la femme de sa vie?
C'est
un peu des deux, mon
capitaine. C'est un peu des deux.
Que dire d'autre à propos de l'intrigue? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une scène quand même incroyable. On va dire presque pendant 5 minutes, au début du film, on assiste à la messe.
Oui, oui, oui.
Rares sont quand même les films, non, qui commencent comme ça.
Oui, d'autant que le propos, ça illustre le propos. En fait, quand je dis, c'est pas surprenant, puisque chacun de ces personnages, en particulier les trois autour desquels on tourne, la jeune fille blonde qu'on verra après, dont on apprendra le prénom Françoise. Mais c'est surtout Maud, Vidal et Jean-Louis, et ont chacun, il y en a un qui est catholique, donc c'est la raison pour laquelle on voit la messe. Il y en a un qui est marxiste.
C'est Vidal.
Et la troisième, Maud, est athée. Donc elle est pas croyante. Et en plus, elle n'a pas d'option ni d'opinion politique. Donc,
et il faut dire aussi que tout commence par une conversation existentielle entre eux. C'est-à-dire, enfin, les dialogues sont extrêmement souples. Ah, vous pouvez nous dire un mot peut-être
Ah oui,
des
non, mais
ça
c'est
introduit à Eric Rohmer.
C'est que dans les films d'Eric Rohmer qu'il peut y avoir des dialogues aussi puissants et aussi profonds. Parce que il faut quand même situer le film, donc Manu chez Maud, dans une collection. Rohmer a fait dans sa carrière, dans sa filmographie,
réalisateur français.
Hein. Trois collections, c'est comme ça qu'il appelait. Celle-ci est la première. Ça s'appelle Les Contes Moreau. Il en a fait 6, ce qui n'a pas empêché de réaliser d'autres films à part, même pendant qu'il faisait Six Contes Moreau. Il n'a pas tourné ses films forcément les uns à la suite et dire « bon voilà, j'ai fini les Six Contes Moreau », il a fait d'autres choses au milieu. Et donc cette première collection a commencé en 63 avec La Boulangère de Monceau et s'est finie en 72 avec L'Amour l'après-midi. Entre-temps, il a réalisé 4 autres films, puisque cette collection est composée de 6 films. Et donc, les Contes Moreau, dont Manu chez Maud fait partie, ont une unité thématique. La thématique est celle-ci. Un homme à la recherche d'une femme en rencontre une autre et hésite avant de finalement revenir à la première. C'est ça qui sous-tend tous les films.
Et une partie de son œuvre, non, j'ai cru comprendre. Les relations hommes-femmes et les relations de séduction ou d'amour entre hommes et femmes
exactement.
Sont au cœur de son œuvre. Ouais.
Et il y a Moral aussi. Mais alors, Moral, il faut l'entendre, les Contes Moreau ou le Conte Moral, au sens littéraire du terme, c'est-à-dire du point de vue de la littérature. Le moraliste est celui qui, autrefois, étudiait les mœurs et les caractères. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut débattre du marxisme et de Pascal, aussi dans la même nuit. Et que finalement, même si on se tourne autour, si on s'aime, si on se courtise, eh bien, il ne se passe pas grand-chose de physique, mais surtout, ça reste dans la relation de la parole, dans ce qui se fait, dans ce qui se dit entre les personnages et leurs différentes options et points de vue par rapport à Pascal,
Et il avait un grand souci des dialogues, non ? C'est ça, dans l'écriture.
Exactement,
de ce film.
L'écriture. Il y a, parce que vous disiez que c'est pas la même chose, mais même de nos jours, en propos de la bande-annonce, en comparant avec celle des Hirondelles de Cabourg, oui, parce qu'ils parlent, ces personnages, quand je dis ils parlent aussi dans les Hirondelles de Cabourg.
Et puis il y a des longs plans, des vrais dialogues. Hein.
Des dialogues qui sont très longs, ouais. et ce qui est assez extraordinaire, c'est que on ne s'ennuie pas. Et il pratique, donc, quand il tourne, le chant contre chant. C'est-à-dire qu'on voit celui qui parle, mais on voit comment est reçu son discours. C'est remarquable, c'est vraiment très très fort. Alors évidemment, il faut s'installer pour voir Rohmer, qui au départ était professeur de lettres.
On va écouter un deuxième extrait, c'est un extrait de la conversation donc, lors de sa nuit chez Maud. Qui dit aussi quand même la profondeur des conversations et puis aussi ce qui a pu se jouer cette nuit-là entre Jean-Louis et Maud qui vivent pour des gens qui ne se connaissent pas un cœur à cœur extrêmement profond.
Je suis sûre que j'avais trouvé l'homme de ma vie. Quelqu'un à qui je plaisais et qui me plaisait à tous les points de vue. Un médecin aussi, très brillant, mais aimant davantage la vie, follement gai. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui... Enfin, dont la présence, la compagnie soit plus joyeuse, plus agréable. Alors il est mort, comme ça, bêtement, dans un accident d'auto. Sa voiture a dérapé sur le verglas. C'est ça le destin.
Voilà, donc cette mode, on ne dit pas tout, donc qui la pâte, hein, telle une menthe religieuse au début.
Parce qu'on parlait de la parole, ce qu'elle aime en fait, c'est les débats philosophiques, donc, certes, mais discute, aussi amoureux.
Voilà, ils discutent exactement, les débats et les ébats, mais ça ne se résume pas à ça, hein, quand même, c'est ce qu'il faut dire et c'est ce que laisse entendre cet extrait. Ils se livrent en fait le fond de leur cœur, ils ont une conversation extrêmement intime, comme des grands amis, alors qu'ils ne se sont jamais vus.
C'est la première fois qu'ils se voient.
Ouais, et j'ai trouvé que c'était, comment dire, c'était peut-être aussi ça la grande finesse du film, c'est aussi montrer un peu l'autre côté de la vie. Chacun a ses secrets dans son histoire et ça arrive parfois de croiser des gens avec qui on a une relation comme ça étonnamment profonde et des intimités qui sont données et qui sont troublantes. En tout cas, c'est ce à quoi Jean-Louis va devoir faire face pendant cette nuit-là.
Effectivement, et Vidal, son ami, a bien senti à la fois cette attirance intellectuelle mais aussi amoureuse, physique, puisque au cours de cette nuit, à un moment, il va partir lui. Il va les quitter et il va les laisser parce qu'il se doute bien et il pense bien que ça va finir dans la chambre.
Alors moi, il y a une scène qui m'a beaucoup frappé. Je vais vous demander de réagir un peu à brûle-pourpoint. C'est que dans tout ce film, ce qui est assez frappant, c'est que les hommes et les femmes, donc en l'occurrence Maud et Jean-Louis, mais aussi les autres, hein, donc Françoise après, se disent des choses très profondes, mais toujours avec une grande distance, avec une grande pudeur. Et on ne devine pas en fait l'impact que ça a sur eux. Et puis il y a une scène... Quand Jean-Louis finit par se décider, après sa nuit chez Maud, à aller vers le mariage et à écouter cette petite voix intérieure qui lui avait dit « cette femme, ça sera la tienne », donc il va à la messe de minuit avec Françoise, et il y a une scène où pendant que le prêtre prêche, pour une fois d'ailleurs, c'est pas un prêtre qui est ridiculisé, son prêche est assez beau.
On voit même le texte.
Voilà, et on voit Françoise et Jean-Louis de face, et alors là, c'est toute l'expression des visages qui explose, elle, hyper, comment dire, angoissée ou surprise par ce que dit le prêtre, lui se tordant sur sa chaise. Ça ne vous a pas frappé cette scène? Tout d'un coup, c'est comme si on voyait en fait l'intérieur des âmes.
Effectivement, mais c'est ce qui a toujours passionné Éric Rohmer, c'est de voir comment se comportent ces personnages, comment ils parlent, comment ils intellectualisent, comment ils vivent ce qu'ils sont et ce qu'ils ressentent au plus profond. C'est ça. Et quand ils parlent pas, ben il faut que ça se voie de toute façon. Et puisqu'on parlait tout à l'heure du chant contre chant quand on parle, et là, ben on voit comment ils réagissent au prêche, au sermon du prêtre. Et c'est vraiment une scène magnifique.
Magnifique,
ouais. Il a affaire...
Il a affaire à des grands acteurs, vous pouvez peut-être en dire un mot quand même.
Mais justement, c'est particulier, c'est ce qu'il faut souligner, parce que ce qui aimait Rohmer, c'est demander, faire jouer des acteurs qui n'étaient pas connus. Des acteurs débutants.
Eux
étaient déjà connus.
D'accord.
Françoise Fabian, pas trop. Elle avait fait un ou deux films, mais qui n'avaient pas laissé une grande trace dans les mémoires. Jean-Louis Trintignant, lui, était Antoine Vitez, beaucoup. Et eux avaient une grande expérience du cinéma. Et il faut bien avouer que Françoise Fabian explose dans ce film. Et puis, elle est sur l'affiche. C'est quand si vous avez eu l'occasion de revoir l'affiche.
C'est Maud.
C'est Maud qui est sur l'affiche. Ouais.
On va écouter un deuxième extrait. C'est un moment où Françoise et Jean-Louis. Donc Françoise, c'est la blonde, ce n'est pas Maud. Françoise et Jean-Louis sont sur les hauteurs de Clermont-Ferrand. Et Françoise elle-même va lui ouvrir son cœur pour lui avouer l'inavouable.
Tu ne veux pas m'embrasser? Qu'est-ce qu'il y a?
Rien.
Mais je sais pas, je te trouve bizarre.
Non, je suis raisonnable.
Oh, écoute, Françoise. J'ai 34 ans, tu en as 22 et nous nous conduisons comme des gamins de 15 ans. Tu n'as plus confiance en moi? Est-ce que je ne suis pas un garçon sérieux?
Toi, si.
Alors?
J'ai un amant.
Tu as... Maintenant?
Enfin, j'ai eu, c'est pas tellement loin.
Et tu l'aimes?
Je l'aimais.
Qui est-ce?
Tu ne le connais pas.
Rassure-toi, ce n'est pas Vidal.
C'est lui qui t'a quitté?
Non, c'est plus compliqué que ça. Il est marié.
Écoute, Françoise, tu sais combien je te respecte et respecte ta liberté. Si tu ne m'aimes pas et...
Mais si tu fous?
Non, je veux dire, si tu n'es pas sûre de m'aimer.
Si je t'aime, c'est toi que j'aime.
Et lui?
Je l'ai aimé. J'étais folle. Je pourrais bien te dire que je l'ai oublié, mais on ne peut pas oublier tout à fait quelqu'un qu'on a aimé. Je l'ai vu juste avant de te rencontrer.
Tu le revois souvent?
Non, il a quitté Clermont.
Si tu veux, nous pouvons attendre le temps que tu voudras. Maintenant, si tu crois que je t'aime moins, que je te respecte moins à cause de tout ça, tu te trompes. D'abord parce que je n'en ai pas le droit. Et puis, je peux bien te le dire, je suis content. Oui, c'est vrai. Je me sentais gêné vis-à-vis de toi. J'ai eu des aventures et certaines ont duré très longtemps. Eh bien, comme ça, nous sommes à égalité.
Voilà, ça finit un peu cut, excusez-nous. Ce qu'on peut dire, c'est que, à écouter ces différents extraits, on pourrait avoir l'impression que ce film est un vaudeville. Hein.
Pas du tout.
Mais ça n'est pas du tout le cas. Et on peut entendre aussi derrière cette conversation, en fait, des personnes qui, derrière, en conscience, vont se marier, se choisir, conscients aussi de leur faiblesse, de leur misère, et s'épousant, on va dire, jusque-là. Et dans le fond, c'est aussi un hymne à l'amour que de,
oui,
que de savoir montrer ça. C'est...
Effectivement, et ce qui veut montrer, Romer, la beauté de l'être humain, c'est sa capacité à communiquer. Et, ça. Et donc à sortir de soi, et c'est aussi la source de ses problèmes. Les capacités, il sort de lui, donc il est confronté à des situations qui sont difficiles à vivre et à faire en sorte que tout s'arrange. Il y a plein de contradictions, quoi, finalement. C'est ça, il navigue tous ces personnages. On n'a pas cité... Françoise,
il donne l'impression de naviguer à vue, mais pas
oui.
tant que ça.
Mais non, c'est pas ça. Parce que il y a Maud, elle est divorcée, libre, elle est très belle, donc désirable, et elle est susceptible de faire vaciller Jean-Louis.
Mais elle est un peu perdue.
Voilà, exactement.
Elle a une conception de l'amour qui est un peu aussi, on va dire, un peu erronée. C'est l'impression que ça peut donner, en tout
exactement.
cas.
Tandis que Jean-Louis, lui, est dans sa profonde certitude, c'est que l'amour ne va pas sans la fidélité sexuelle. Parce qu'il le dit. Alors, c'est paradoxal, parce que dans ce qu'on vient d'entendre, il avoue qu'il a eu des aventures avant. Mais néanmoins...
Mais il choisit d'aimer.
Il choisit d'aimer, voilà.
Manu chez Maud, d'Éric Rohmer, très beau film à voir. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver pour parler donc du Livre des Lits, tout à fait une autre ambiance. Pardon, vous vouliez...
Non, juste dire que la musique, on ne va pas entendre de musique extrait de Manu chez Maud parce qu'il n'y en a pas.
Oui, donc ça va un peu déménager, du coup, il ne faut pas...
Ben, c'est-à-dire que ce n'est pas en accord avec ce dont on vient de parler.
Voilà, donc le prochain, c'est le Livre des Lits, un film donc, de deux réalisateurs américains, Albert et Alan Hughes, qui sont deux frères. Pour introduire peut-être la musique, c'est un film de science-fiction post-apocalyptique. Un homme se promène après une apocalypse nucléaire et il a un mystérieux livre avec lui.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour ceux qui nous rejoindraient à l'émission cinéma mensuelle de Vivante Église avec aujourd'hui seulement un invité, Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission cinéma elle de Radio Présence le mercredi de 19h à 20h, n'oubliez pas l'ouvreuse, et son compère Paul Dima se fait excuser pour ce mois-ci. Troisième film, pas à l'affiche, hein, le chef-d'œuvre spirituel du mois. Vous avez choisi un film donc, je le disais avant la pause, de science-fiction post-apocalyptique, Le Livre d'Eli. Tout autre ambiance aussi, hein. On a vraiment trois films très différents. Les Hirondelles de Kaboul, dessin animé pour adultes.
Film d'animation.
Manu chez Maud, d'Eric Rohmer, et maintenant donc ce film américain. On va écouter la bande-annonce.
Il y a 30 ans, la guerre provoqua un trou dans le ciel. Peu survécurent. Notre seul espoir est entre mes mains.
Donne-moi le livre.
Tu reposes la main sur moi, tu la récupéreras pas. Je t'avais dit que tu la récupérerais pas.
Cette petite ville, c'est que le commencement. Tout ce qu'il nous faut, c'est le livre. Je connais son pouvoir. Laisse-le-moi, ou je te jure que je t'enterre. J'adore ce mec. Tue-le, s'il te plaît.
Apprends-moi.
Ferme les yeux.
C'est une arme!
Voilà, ça déménage, c'est pas tout à fait la même ambiance. Alors il paraît que c'est 30 ans même après une apocalypse nucléaire. On nous parle toujours d'apocalypse nucléaire. Là, ça a eu lieu. Il y a même un passage dans le film. Alors j'avoue que celui-là, je ne l'ai pas vu, où on dit que tout d'un coup, en fait, le ciel, donc on imagine
c'est ouvert.
La couche d'ozone, en fait, c'est
oui,
ouvert.
Oui, ça a fait un trou dans la couche d'ozone.
Et tout a été brûlé sur Terre. Il y en a quelques-uns qui ont résisté. Et donc, on va dire, c'est les derniers survivants qui se promènent sur Terre, dont ce fameux Eli. Alors, racontez-nous l'histoire, lui-même.
Puisque la plupart d'entre eux sont devenus aveugles. La plupart des survivants sont aveugles.
En plus.
Pas tous, mais la plupart.
Alors, l'histoire, donc, c'est un homme qui se promène avec un livre.
En fait, il se promène. Il marche. Dire qu'il se promène, ça serait... C'est comme si...
Oui, en l'occurrence, il n'a pas l'air de se promener. Non, c'est pas une promenade du dimanche.
C'est pas une promenade du dimanche. C'est une quête. Et on va apprendre petit à petit pourquoi il fait ça. On l'apprend petit à petit, on peut le dire sans trop dévoiler, qu'il a entendu une voix. Une voix qui lui a dit « Tu pars avec ce livre ». Et il faut que tu arrives. Donc, se passe aux États-Unis.
Il
va vers l'Ouest américain.
Et
il part de l'Est. Hein, donc, il traverse pratiquement l'intégralité des États-Unis actuels à pied. Il est à pied. Parce qu'évidemment, on pense à. Il y a d'autres références pour les films post-apocalyptiques. Je parle du décor, non pas du propos, hein, mais du décor, on pense évidemment à Mad Max. Puisqu'il n'y a plus de véhicules, ou certains ont encore des véhicules, mais c'est compliqué de les faire rouler, parce qu'il faut trouver du carburant, etc. Donc le plus souvent, c'est aussi un peu comme la route.
Alors je fais une pause du coup, Le Figaroscope, un thriller futuriste trépidant entre Mad Max et Je suis une légende, et donc qui donne une très bonne note à ce film. Alors juste l'histoire, Louis-Marie, si vous devez continuer à la résumer avant qu'on la développe.
Bien voilà, alors il traverse le pays.
Il traverse, il va vers l'ouest.
Il va vers l'ouest, alors il va faire des rencontres, évidemment, plus ou moins heureuses. Le plus souvent, elles sont malheureuses.
Oui, ça, l'ambiance n'a pas l'air d'être très...
Oui, mais il sait se battre. Il sait se battre et...
Il a même une force en fait assez...
Il semblerait qu'il y ait quelque chose, un pouvoir, on ne sait pas trop lequel. Il arrive à certains moments, quand on lui tire dessus, que les balles l'évitent. Maintenant, dans le feu de l'action, peut-être qu'on a mal tiré. Toujours est-il qu'à un moment, il arrive dans une ville qui est dominée par un homme qui se fait appeler Carnegie. Il règne sur une ville, c'est un bled, oui on peut dire ça comme ça, prostitution, punk, rationnement. Et il veut accroître sa domination, ce Carnegie, de façon exponentielle, parce qu'il a l'intention de créer d'autres villes comme ça. Une façon de s'enrichir. Et pour y arriver, il veut le livre d'Elie. Elie, c'est bien le nom du voyageur.
Il cherche le livre, mais il ne sait pas que c'est Elie là au début, en tout cas.
Il comprend au bout d'un moment qu'il a le livre, et c'est ce qu'on entend un moment dans la bande-annonce. Donne-moi le livre.
Alors, on va écouter un autre extrait aussi, on va dire, cash hein, pour ce film, et puis on va vous laisser nous commenter, nous dire ce qu'il dit de ce film.
Le meurtrier de voyageurs innocents qui sont sur les routes. Un jour, tu vas être obligé de payer pour tout ce que tu as fait, tu le sais ça? Tu le sais? Très bien. Ça va aller.
Est-ce qu'on peut dire que ce personnage, Elie, comme les prophètes de l'Ancien Testament, puisque c'est un prophète de l'Ancien Testament, en tout cas c'est son nom, son nom qui renvoie à cela, il a aussi tout au long du film ce caractère un peu de quoi, d'homme de Dieu, de justicier, de celui qui annonce quelque chose
exactement,
que personne ne veut entendre.
Voilà, il punit les méchants, mais quand il les punit sévèrement. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de leur dire « tu as fait du mal ». Ils n'en feront plus après qu'il les ait tancés, hein, quand même. Il y va. C'est non seulement un homme qui a des lettres, qui pense, parce que la plupart des gens qu'on croise, je ne sais pas si c'est dû à l'apocalypse nucléaire,
ils
mais
ont
ils
pas
ont
gardé
plus,
les plus futés. Hein,
il y a quelques neurones qui ont été grillés, quoi. Et donc, ils tombent sur des gens qui sont prêts à tout, on l'entend dans l'extrait, à massacrer d'autres personnes pour avoir de quoi manger, un peu d'argent, ce qui permet de faire du troc, il y a plus du troc.
Alors avant qu'on écoute la suite, Louis-Marie, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce film et pourquoi, selon vous, et donc on imagine Paul, et peut-être même vous en êtes-vous parlé, vous diriez que ce film est un chef-d'œuvre, parce que à vous entendre pour l'instant et sans l'avoir vu, on se dit, bon, un bon film de science-fiction avec une petite thématique religieuse...
Mais c'est le pouvoir qu'on donne à ce livre, dont on a compris, dont on comprend d'emblée ce qu'il est, ce livre. Même si on ne le dit jamais, on le comprend pas.
C'est la Bible. Et c'est le dernier exemplaire.
C'est le dernier exemplaire qui existe sur la Terre. Le dernier exemplaire de la Bible. Donc cet homme a une mission, on se doute de laquelle, c'est-à-dire que ce livre soit préservé. Mais dans cette...
Élu.
Il est l'élu. Alors,
et que ce livre soit lu aussi.
Exactement.
Il est l'élu et que ce film soit lu.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce livre disparaisse, parce qu'il est important pour la sauvegarde de l'humanité, de ce qu'il en reste, mais pour que ce ne soit plus ce monde terrible que Elie, ce voyageur, traverse.
Alors ça, c'est l'histoire, mais pourquoi est-ce que c'est un très beau film ?
C'est-à-dire que... Bon, c'est ce qui est assez séduisant, et ce qui m'a séduit, je ne peux pas parler pour Paul Dima.
On lui demandera la prochaine fois.
Mais c'est d'avoir utilisé ce monde post-apocalyptique pour rendre précieux ce livre. On aurait pu trouver un autre moyen, trouver un autre thème pour parler de ça.
D'autres ont fait comme ça. Tolkien, avec Le Seigneur des Anneaux,
c'est
une forme de métaphore.
Une métaphore. Là, la métaphore, c'en est pas, c'est la Bible. C'est elle. Et que ce despote sanguinaire là, qui règne sur sa ville, Carnegie, dit que ce livre est une arme puissante. Il faut le prendre. Parce que quand on l'entend sans voir les images, et sa façon de voir, et puis surtout qu'on passe son temps dans le film, les gens passent les hommes et les femmes passent leur temps à se taper dessus, à s'entretuer. On peut penser que c'est une arme au sens propre du terme. Non, il va pas utiliser. C'est pas un livre magique. C'est pas un livre avec lequel on tape sur les gens. Mais ce qu'il contient.
A du pouvoir.
A du pouvoir, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il contient qui a de pouvoir. Et ça, c'est assez séduisant même. Bon, c'est un prétexte aussi.
On va écouter un deuxième extrait.
Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
C'est magnifique.
Tu aimes ?
C'est toi qui l'as écrit ?
Tout à fait.
C'est vrai ?
Non. Non, ça existait bien avant que toi et moi on soit venus au monde.
Qu'est-ce que tu voulais dire quand t'as dit que c'était pas n'importe quel livre ?
C'est le seul.
C'est vrai ?
Après la guerre, tout le monde s'est mis à les chercher. Et à détruire ceux qui n'avaient pas encore été brûlés. Il y a même des gens qui ont dit qu'ils avaient provoqué la guerre. Toujours est-il que c'est le seul qui reste.
Comment tu l'as trouvé ?
On a dit que la guerre avait fait un trou dans le ciel. T'as dû en entendre parler.
Oui.
Et que par ce trou dans le ciel, le soleil est passé. Et a brûlé tout ce qui existait. Tout et tout le monde. Les plus chanceux ont réussi à se mettre à l'abri dans des endroits comme celui-ci.
Voilà, un deuxième extrait du livre d'Élie. Louis-Marie, quel commentaire ça a attiré en cette fin d'émission, ce deuxième extrait ?
C'est-à-dire que la jeune femme avec laquelle parle Élie et à qui il cite la Bible, en lui faisant croire un court instant que c'est lui qui l'a écrit, Solara a été chargée par son père, adoptif certes, mais son père malgré tout, Carnegie, le méchant, celui qui veut le livre, de le séduire, de lui prendre le livre. Et en fait, ce qui l'intrigue, elle parle, elle part avec Élie, c'est parce que grâce à son discours, sa façon de voir de ce qu'il lui dit à propos de ce livre, et qu'il va vers quelque chose, on ne sait pas encore quoi, qu'il y a un autre moyen de vivre sur cette terre, autre moyen que de s'entretuer, il y a une autre façon d'imaginer ce futur, même s'il est apocalyptique.
Voilà, on imagine qu'elle vit une forme de conversion. On va citer une dernière fois donc les trois films. Le film à l'affiche, Les Hirondelles de Kaboul, de Zabou Breitman, il faut aller le voir. Manuche et Maude, d'Eric Rohmer. Et donc, le livre d'Élie. On n'a pas dit quelques mots de leur réalisateur. Peut-être qu'on aura une autre occasion. Albert et Hélène Hugues. Merci beaucoup, Louis-Marie, d'être venu au micro de Vivante Église pour cette émission cinéma.
Merci, Emmanuel, c'est toujours un plaisir d'être
voilà,
avec vous.
Bah écoutez, merci, le plaisir partagé. Et longue vie au Ciné-Parole, au cinéma L'ABC. Et rendez-vous le mois prochain avec Paul Dima. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Thank you.